Foi, né? Alors, on est obligé de se souvenir de ces dernières paroles de la paracha dernière, parce que ça s'était plutôt mal passé. Vous vous souvenez, Hachem a envoyé Moshe Rabbeinu intervenir auprès de Paro, et l'intervention de Moshe Rabbeinu, elle s'est soldée par une aggravation de la situation. Et alors Moshe s'est plaint, il a accusé Hachem en fait, en disant, mais pourquoi tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé et mon intervention, elle a aggravé la chose. Jusqu'alors, il devait produire des briques, quantité de briques, mais on leur fournissait la paille avec laquelle il fallait produire les briques. Et maintenant, Paro a décrété qu'on ne leur fournirait plus la paille non plus. Donc il faut qu'ils aillent d'abord dans les champs pour obtenir la paille, et ensuite qu'ils produisent les briques. Et la quantité de briques à produire est la même que celle qu'on exigeait d'eux quand on leur fournissait la paille. Donc la situation est devenue empirée pour eux. Et pourquoi est-ce que quelle était la justification? C'est que Paro dit, vous avez le temps de penser, puisque vous pensez à les servir, bon, c'est des trucs, on va vous enlever le temps de penser. Vous allez être tellement abruti par le travail qu'il faudra faire que vous ne pourrez pas penser, vous n'aurez plus le temps de penser, donc vous arrêterez de me saouler avec vos histoires de on va aller servir Hachem, etc. Allô? Canela, mais je vous ai appelé. Tous les deux, vous ne m'avez pas répondu. Ah oui, pas entendu, c'est facile à dire. Et où est Bellomy? Je ne sais pas, je vous ai appelé tous les deux. Bellomy, je ne le vois pas. Écoutez, raccrochez, je vous rappelle encore une fois et vous avez qu'à prendre et je vous appelle. Raccrochez, s'il vous plaît. Pardon? Alors vous êtes là, c'est bien. Visiblement, c'est difficile de vous avoir en même temps. Ok. Voilà. Donc, comme on disait, la paracha, elle commence parce que Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu quelque chose d'assez terrible. Il lui a dit, à la fin de la paracha dernière, il lui a dit, tu vas voir ce que je vais faire ici, mais parce que tu m'as mis en cause, parce que tu m'as accusé en quelque sorte, alors, tu verras ce que je vais faire en Égypte, mais tu ne verras pas ce que je ferai au moment de l'entrée en Eretz Israël. Quand les Bnei Israël vont entrer en Eretz Canaan, la guerre contre les 31 rois, là, il y avait 31 rois clés, qui avaient en tout cas des têtes de pont en Eretz Canaan, et quand il va falloir mener la guerre, c'est, bien, comme vous savez, c'est Yoshua qui va devoir la mener, parce que Moshe Rabbeinu ne franchira pas le Jourdain, il n'entrera pas en Eretz Israël. Mais c'est donc, à la limite, la carrière de Moshe, effective, sauf cet événement-là, elle commence avec, il sait que il va amener les Bnei Israël en Eretz Canaan, en Eretz Israël, mais lui, il n'ira pas. Hachem lui a dit, toi, tu ne seras pas. Il sait déjà ce qui va. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça va se présenter comme la suite du fait qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. mais c'est déjà décidé ici. Donc il faudra qu'on explique pourquoi on dit que c'est dû à leur attitude à Moshe et Aaron au rocher, alors que pour Moshe, en tout cas, la question est réglée ici. Dans l'écriture de la paracha, il y a une trace qui fait que, comme le fait remarquer le Netziv, c'est marqué « Vaidaber Elokim el Moshe, vayomer elav, ani Hashem », etc. Alors, Rashi dit « Diber ito mishpat ». N'est-ce pas? Parce que c'est marqué « Vaidaber ». Le « dibour », c'est une parole dure. Pourquoi? Pourquoi il lui parle comme ça? « Al-Sheikshal Daber ». Parce que lui, il s'est permis de parler durement. « Lomar lama reota lamaze ». Pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Alors, « Vayomer elav ani Hashem ». Alors il lui dit... Donc il y a deux choses, Vaïdaber Elokim el Moshe, parole dure, puis ensuite il lui parle, Vayomer, parole douce. Donc il y a eu un dibour dont on ne connaît pas le contenu, si vous voulez. Les trois premiers mots, font référence à un dibour dur dont on ne connaît pas le contenu. Rachid non plus ne donne pas le contenu, il dit simplement, il lui a parlé Mishpat, parlé durement. Alors le Netziv dit, le Megdavar, il dit « Kasher Eishiv HaKadosh Baruch Hu le Moshe al She'elotav et Tarumotav » le Sha'a, quand Hashem a répondu à Moshe sur ses questions et en fait accusations sur toute le Shibud Mitzrayim, etc. « Zba Dibur Bifne Atzmo » Il vient une parole d'Ibour pour soi. Cette parole-là, elle est nécessaire maintenant pour Moshe. Elle est aussi une parole nécessaire pour toutes les générations à venir. À d'autres endroits aussi, on a ce genre de présentation. Vaïdaber Elohim, on a expliqué. Zé Hashem Mashmao Kamapamim, ce nom-là, il veut souvent dire à l'anagata teva, Shebara ou Idbarach. C'est le nom divin qu'on utilise pour parler du phénomène naturel. C'est marqué Bereshit bara Elokim, la création. Vechen kan mashmaut hamikra vaydaber Elokim sheu bore ateva. Ici aussi, il faut l'entendre de cette manière-là. Ici, c'est Hashem en tant que créateur. Et Vayomer Elav Ani Hashem, alors il lui dit, je suis Hashem, c'est-à-dire, Ameave Akol Be'ashgacha Pratit. Cette fois-ci, c'est le tétragramme. Il dit, tout existe, je fais tout exister en m'en occupant spécifiquement. Je m'occupe de chaque chose, Ashgacha Pratit. Velok Basar Vadam Abone Bait, c'est pas comme quelqu'un qui construit une maison. Donc il s'investit dans la maison tant qu'il est en train de la construire. Mais une fois qu'elle est construite, elle ne tient pas grâce à... Il n'est pas en train de la soutenir en permanence. Mais le monde qui a été créé par le nom d'Elohim, c'est un monde qui ne tient que par le nom divin tétragramme, qui lui fait exister toute chose. Il donne la durée, en fait. En Tandis qu'il est mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Donc c'est curieux, il y a eu un phénomène de création par Elohim, mais de quelque chose qui ne pourrait pas tenir si Hachem ne lui donnait pas la durée. Donc il y a, c'est deux choses distinctes, la durée et la création. On retrouve cette idée un petit peu, disons, ouais, on retrouve un petit peu cette idée, c'est marqué que David HaMelech, il devait ne vivre que quelques heures. Il a été créé pour ensuite disparaître. Et c'est Adam Harishon qui lui a donné les 70 ans qu'il a vécu. Adam Harishon qui aurait dû vivre 1000 ans, il n'en a vécu que 930, parce qu'il a donné 70 ans de sa vie à David. De toute manière, on dit que Adam, c'est les lettres de Aleph Daled Mem, c'est Adam, David et le Mashiach. Donc, quelque part, David est à l'intérieur de Adam. Bezé nichlela tshuva al shelat Moshe. C'est en ça qu'il y a, là-dedans, il y a une réponse à la question de Moshe. Lui pensait que la gzerat paro nasta shelo be'ashgacha mimenu itbarach. Ela beteva ha'inyan. Moshe pensait que le décret de paro était un phénomène naturel, une espèce d'antisémitisme naturel. Hachem lui répond, non, non, non. Ce qui se passe dans la nature, c'est aussi Be'ashgacha. Il n'y a pas de phénomène naturel qui fonctionne en quelque sorte presque sur sa lancée, parce qu'Hachem l'a créé, et ça, le monde continuerait sur sa lancée. Non, non, le monde ne continue pas. Le monde, il dépend de la Ashgacha. Il y a une Ashgacha permanente. Et c'est important à savoir, pour les Dorotes, pour les générations aussi, parce qu'à ce moment-là, alors, il y a une question, une nouvelle question pour Moshe. Comment est-ce possible, puisque je vois qu'il y a une telle étrangeté dans la direction du monde. Là-dessus, Hachem lui dit, Vaera, il lui dit, Davar ze le amin, שהכל בהשגחה שלא יתקשה לנו ואשר אנו רואים זרות בעינינו. Nous voyons en permanence des choses étranges, des choses insupportables dans le monde. Alors comment croire que ça se fait avec la Ashgacha? שעיקר גדול בגלות. Et en principe, dans le galout, c'est encore plus fort. C'est déjà le galout, en vérité. Alors il dit, הרבה אחר כך משה להוכיח לישראל בספר דברים. Moshe Rabbeinu va répéter ça au Bnei Israël dans la suite. Il a intégré cette leçon qu'Hachem lui donne là maintenant. Moshe Rabbeinu betrilat gidulo gam ken lo yachol haya lisbol. Au début de sa carrière, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas non plus supporter. L'amin ki kachu. Anche ba'u elav divrei Hachem ele. Jusqu'à ce qu'Hachem lui parle de cette manière-là. Veine k'tiv kan b'shnei l'shonot. C'est écrit de deux manières, effectivement. D'abord, vaidaber, et puis ensuite, vayomer, comme je vous ai fait remarquer. Les Chazal ont déjà expliqué que dans Makot, que quand le makom she'eno dibouri dine Torah, ha'evdel ben dibour ve'amira ou she'dibour mashmao kashut ve'amira rakut. N'est-ce pas bon, vous connaissez. Le dibour, c'est dur. Et la Amira, c'est rond, c'est doux. Et ici, il y a les deux expressions. C'est ça que Chazal veut dire quand ils disent que Bereshit, Bara Elohim, il a créé selon le din, c'est-à-dire le dur. Il a vu chez Enomit Kayem, il a vu qu'il n'y avait pas de durée possible dans ces conditions-là. Ashitef Rachamim Bedin, il a associé la tendresse au Din. Donc il a modifié, je veux dire par là que ce que je vous ai dit déjà plusieurs fois, je crois que c'est impossible de, enfin, ça, il m'est, à moi en tout cas, impossible de penser que Hachem a fait fonctionner le rachamim au milieu du din. C'est quoi? C'est rachamim et din, c'est deux choses distinctes. Et comme on dit à Rosh Hashanah, on demande à Kadosh Baruch Hu de passer du trône de din au trône de rachamim. S'il passe au trône de rachamim, c'est plus le din. Comment? C'est un jour du jugement, qu'est-ce que tu demandes de rachamim? Alors il faut dire ici que la, ce que la Torah nous enseigne ici, c'est que on n'a pas la même notion du din que c'est pas la notion courante. C'est que rachamim fait partie maintenant du din. C'est-à-dire que le Akadosh Baruch Hu, il tient compte de ce que c'est, il est en train de juger ses enfants en quelque sorte. Et donc, comme le dit Camus, comme disent les autres, je veux dire, c'est entre le pays et ma mère, je choisis ma mère. Ça veut dire. C'est le din, Akadosh Baruch Hu, il a intégré dans le din Rachamim parce que c'est la condition de la survie. C'est donc la, c'est-à-dire, ça deviendra par la suite, donc, Hachem Elohim. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut comprendre, c'est ce que nous disons à la fin de Yom Kippour, Hachem Hu a Elohim. C'est-à-dire, c'est Hachem qui est Elohim. C'est-à-dire, le din est une partie dans, c'est un sous-nom, un nom inférieur au tétragramme. Hachem Hu a Elohim. C'est-à-dire, c'est pas Elohim ou Hachem. Hachem ou Elohim. C'est-à-dire, la Midatadin, tout ça, ça s'inscrit dans un ensemble qui est du type Chesed, du type Rachamim. La démarche initiale de création du monde, c'est une démarche de Chesed. Même si ensuite, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec de la Midatadin, parce qu'il pensait que, parce qu'il y a une possibilité d'essayer de, pour les hommes, certains ont dit que les avots, ils ont, ils ont essayé de vivre au niveau du din. Ils ont essayé de, en fait, de ne pas demander le rachamim. Pas demander des passe-droits, sinon moi je suis pas à la hauteur, alors fais-moi cadeau en quelque sorte. Non. Mais ils auraient voulu vivre au niveau du din. Ça ne marche pas vraiment complètement. Ça veut dire, ici, il y a un autre midrash qui dit, donc l'idée c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a tenu compte de ce que les paroles de Moshe n'étaient pas pour lui. C'est pas que moi je juge que tu fais pas bien. C'est pas, il souffrait la souffrance du clan Israël, et c'est pour ça qu'il a parlé comme ça. Donc c'est un souci de l'autre. Du coup, il n'a pas été puni. Et il y a un autre midrash qui dit que, de nouveau, la Milat Hadin, elle voulait attaquer Moshe. Et Hachem a dit, mais je ne suis pas un être de chair et de sang qui est incapable de rachamim. Le rachamim, c'est inhérent à Hachem. Il n'y a pas une possibilité de faire sans rachamim. C'est ça qu'il leur a dit, en fait. Alors Hachem va maintenant donner une leçon à Moshe Rabbeinu. Il a l'air de donner cette leçon, je me demande pourquoi il faut qu'il donne ici cette leçon, pour montrer à Moshe Rabbeinu que, en fait, il aurait dû prendre modèle sur les Avot. Il dit, « Vaera el Abraham, el Yitzhak, el Yaakov. » À Abraham, Yitzhak et Yaakov, je me suis montré sous mon nom de Kel Shakai. Mais mon nom d'Hachem, le tétragramme, lo nodati lahem. Sous ce nom-là, je ne me suis pas fait connaître. Ça veut dire, Kel Shakai, c'est le Dieu des promesses. Et les Avot, ils ont reçu les promesses, ils n'ont pas vu le commencement du début de la réalisation des promesses. le nom divin qui correspond à la réalisation des promesses, c'est le tétragramme. Lo hodati lahem. Rashi fait remarquer, c'est pas marqué lo hodati. Je ne l'aurais pas dit. Lo hodati, c'est lo nikarti. Je n'ai jamais été reconnu comme le tétragramme. J'ai fait des promesses et je ne les ai pas tenues. De leur vivant, je ne les ai pas tenues. Vegama kimoti et briti itam la tête laem et eretz knan et eretz gureyem asher garuva. Kama ni shamati et naakad ben Israël asher mitzrayim ma'avidim otam ve'ezkor et briti. Alors ici, HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, j'ai fait, je ne sais pas pourquoi le également, c'est-à-dire ici, c'est vrai que vegam, mais le gam est, d'ordinaire quand on dit vegam, c'est la même chose. On dit ça et aussi ça, mais c'est analogue. Là, ça a l'air d'être presque contradictoire. Il dit, voilà, je ne me suis pas fait connaître, j'ai fait les promesses, je ne les ai pas tenues, mais aussi, j'ai tenu l'alliance avec eux. Akimoti. Rashi dit, Gam sheniriti lahem bekel shakai, itzavti ve'emadti briti benir veneem. Mais même sous forme de Kel Shakai, malgré tout, j'ai pas tenu mes promesses, mais j'ai fait une alliance avec eux. Alors, lui aussi, de nouveau, le Netziv, ici, il dit des choses très importantes. Il dit, chaque fois que le Kel Shakai a été utilisé, le nom divin Kel Shakai, j'ai déjà expliqué, dit-il dans Sefer Bereshit, Shabbat l'arot de tachrit abriya ve'ateva haya ach sheimale kvod Hashem. J'ai expliqué que ce nom-là, il venait dire que le but de l'exercice, c'est que la gloire divine remplisse le monde. C'est ça le but. Comme c'est marqué, kol pa'al Hashem le ma'anem. Tout ce qu'Hashem a fait, il l'a fait pour lui. Kol anikra bishmi, etc. Le mot Kel Shakai, qui s'écrit comme She Dai, ça suffit, Dai, ça suffit. C'est quand Kadosh Baruch Hu, il a dit à son monde, ça suffit. Vous connaissez la Gemara, l'image, c'est toujours que Hachem a créé un monde en expansion, et puis au bout d'un certain moment, Hachem a dit, ça suffit, l'expansion suffit. Ça veut dire, le monde, dans cet état-là d'expansion, il est suffisamment grand, suffisamment divers, pour que toutes les situations qui permettent de dire, qui permettent aux hommes de publier ma gloire dans le monde, sont dans ce monde. Il y a de quoi, il y a suffisamment dans le monde. On n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de plus d'étoiles, on n'a pas besoin de plus, etc. Voilà. Tout ce que j'attends, en quelque sorte, pour qu'on dise que, voilà, ma gloire remplit le monde, se trouve là, dans ce monde. C'est pour ça qu'il a dit Dai, chez Dai, ça suffit. Évidemment, nous, on ne comprend pas pourquoi ça doit être cette grandeur et pas autre, pas une autre, en plus. Parce que ça veut dire le monde en expansion, c'est Aujourd'hui, on parle couramment du monde en expansion, de l'univers en expansion, mais est-ce que c'est ça, l'expansion ? C'est rien. Puis en plus, il semble, alors, on ne sait pas dans quelle mesure ce fameux univers en expansion, il s'arrêtera. C'est en expansion, mais c'est tout, on sait seulement que c'est en expansion, c'est tout. On n'est pas... Peut-être qu'Hachem a dit die, ça veut dire qu'il existe une limite à cette expansion. Certains disent que, bon, si on prend de la physique, quoi, que des fois ça fait comme un accordéon, ça veut dire que ça va, ça gonfle, et puis après ça dégonfle, après ça rebond. Bon, on ne connaît pas grand-chose en cosmologie, donc. Donc Hachem dit, quand je me suis dévoilé au Havot, je leur ai expliqué que le but, c'est ma gloire. Et c'est ça mon nom, Shakai. Mais mon nom, tétragramme, qui est toujours là aussi, qui assure la pérennité du monde, etc., eux, ils ne l'ont jamais apprécié. Ce nom-là, ou mais avait à col, qui fait exister toute chose, avait le fiat niré, kol sheba venase à la haaretz, Vein bozu atachlit, et nomme ashgachato idbarach. Il semble que toute chose où on ne voit pas que cette chose-là va contribuer à la gloire divine dans le monde, on pourrait dire, ben, c'est pas dans la providence divine. Aval behemet enoke. Mais en vérité, c'est pas comme ça. Elle a ani Hashem. Ça veut dire, bien que ce soit contradictoire, à l'échelle humaine, disons. Si mon nom c'est Kel Shakai, alors ça voudrait dire à l'échelle humaine que tout n'est pas Bashgacha, et si tout est Bashgacha, alors ça veut dire que le nom Kel Shakai n'est pas justifié. Mais le Hemet c'est Ani Kel Shakai, mais Ani Hashem. Je suis aussi Ani Hashem. Je le Nodati, la vote. Je n'ai jamais expliqué aux Avot, ils n'ont jamais pu comprendre comment c'est possible, comment c'est possible que ce ne soit pas contradictoire. Vezou aïta tchouva le Moshe. Ça, c'était la réponse à Moshe Rabbeinu, et aussi un enseignement pour les générations. Donc, Moshe Avot Raou Kamaitim. De la même manière que les Avot ont vu plusieurs fois. Ils ont vu des situations dans lesquelles il semblait que c'était contraire à la gloire divine. Néanmoins, l'Oiravu, l'Akshot Echou, ils n'ont jamais mis en question la chose en demandant mais comment c'est possible. Ariodati laem, Shanikel Shakai. C'est ça. Je leur ai dit, je suis Kel Shakai. Eskach en le Moshe velolan ou le dorot leit kashot beze. C'est pour ça que cet enseignement vient nous dire que ni Moshe, ni nous, n'avons à nous soucier de cela, en quelque sorte. Et là, le Amin, c'est kachou. C'est seulement faire confiance que c'est comme ça. Mais finalement, de ces situations où on ne comprend pas que ça peut mener à la gloire divine, au contraire, on a l'impression que ça va dans le mauvais sens, on le comprendra. Veod et Veagama Kimoti, j'ai aussi fait une alliance. Aussi, pour répondre à Moshe, Rabbeinu ici, pour qu'il voit combien il y a d'Ashgacha sur le clan Israël, Ochiach Al Zecher et Akimoti et Britit. Là, j'ai fait tenir mon alliance avec eux. Alors il dit, je leur ai donné, j'ai une alliance dans laquelle j'aurais dit que Eretz Kenéan est Eretz Megurehem Asher Garouba. Je leur donnerai ce pays, le pays de leur résidence, là où ils ont résidé. Ce pays où ils ont résidé. Alors là, de nouveau, le mec d'Avar, il dit, ce qu'Hachem dit ici à mon cher Rabbeinu, vous avez déjà marqué que c'était Eretz Kenan, alors pourquoi dire que c'est le pays où ils ont habité? On sait bien qu'ils ont habité en Eretz Kenan. Alors il dit, lo bishvil shehu Eretz zavat chalavut vash, levad iftachti et ota Eretz davka. Je n'avais pas promis ce pays parce que c'est un pays où coule le lait et le miel, donc c'est un pays qui a des avantages. Mais parce que Bishvil Shei Eretz Megureyem, Urgeluba, Bashgacha Pratit. C'est parce que dans ce pays, ils ont vécu, ils se sont habitués même à avoir dans ce pays une Ashgacha Pratit, une providence. Là, il a l'air de dire que la terre elle-même, le pays en question, il est la cause de cette Ashgacha Pratit. Eretz Asher Hashem Doreshota Bepratut. C'est un pays sur lequel Akadosh Baruch Hu a un œil en particulier, en fait. Et c'est ça que j'ai promis à leurs enfants. C'est-à-dire, je veux les faire bénéficier d'une Ashgacha Pratit. Vegam Ani Shamati. A priori, ce Ani, il est en trop de nouveau. On sait bien qui parle. Et comme c'est marqué Shamati, on sait que c'est j'ai entendu, de dire et aussi moi j'ai entendu, ou j'ai entendu, c'est redondant évidemment. Ça veut dire ici, ça aussi ça vient dire, Al Kochacha ou Be'ashgacha. Shere kvar yadate shelo ata levad shamata nakat Israël, mishtatef betsaram. Tu sais bien qu'il n'y a pas que toi qui as entendu les souffrances du Bnei Israël. Gamani shamati, moi aussi j'ai entendu leur cri. C'est-à-dire, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu crois que toi, tu es plus tendre à leur égard, tu as plus d'empathie que moi. Mais en fait, depuis le moment où je t'ai parlé, je t'ai mentionné, j'ai mentionné mon alliance, de les faire sortir pour qu'ils arrivent dans ce pays d'où ils ont vécu. Donc tu vois bien que j'ai un souci d'Ashgacha par rapport à eux. C'est pour ça que j'ai mentionné mon alliance. Tout ça, c'était ce que Moshe Rabbeinu aurait dû comprendre. Il aurait dû comprendre en pensant que l'obeteva inyan ba'ara l'Israël. Ça ne vient pas de façon naturelle, le mal contre Israël. Elle a bechavala mimenu idbarach, ou met la kol betzedek. Mais c'est intentionnel. C'est la volonté d'Hachem. Et donc c'est évidemment juste. La haine, pour cette raison. Et mort l'ivne Israël, ani Hachem, vorzeti etrem, mitachat sivlot mitzraim, vitzalti etrem, avodatam, vegalti etrem, Yisroel Ntouya Mishvatim Gdolim. C'est les quatre Lechonot de Geoula. C'est les Velakarti Etrem Lileam. Avec ça aussi. Vaitilachem Elokim Vidatem Kiani Hashem Elokechem. Donc, Amotsi Etrem Itachat Siblot Mitzrayim. C'est la raison pour laquelle on boit quatre coupes de vin le soir du Seder. Ici, le Hamedavar, il dit aussi, un grand Mechadesh, il dit ici, on lui dit, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, est mort l'Ibn Israël, dit au Ibn Israël. On entend ici que c'est Moshe Rabbeinu qui doit parler, et pas Aaron. C'est-à-dire, c'est pas, très souvent, c'est Moshe Rabbeinu qui dit à Aaron, et c'est Aaron qui parle. Moshe Katafti, j'ai déjà écrit comme ça, le Chenaya de Varo Lalan, plus bas, c'est la même chose, Bo Daber El Paro, quand Hachem va dire à Moshe, viens, parle à Paro, Aya Ratzon, Sheloye Aaron de Choladibrot. La volonté divine, c'est que Aaron ne soit pas dans toutes les paroles divines, dans toutes les paroles, et la Bapa Marishona. Il voulait seulement que la première fois, ce soit Aaron qui parle. Pourquoi? Kedesh shelo yu mesarvin la'amin shenigla Hashem al Moshe. Pour que les Bnei Israël ne refusent pas l'idée qu'Hashem s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Ils ne le connaissaient pas, Moshe. Ils connaissaient Aaron. C'était Aaron qui était sur le terrain. Mais maintenant, qu'Hashem ba Aaron imo, vishri shemunata geula bilshono, et que maintenant il a, on a installé cette confiance sur la, de la Geoula. Shuvaya Ratzon Shiyem Moshe Mdaber Batzmo. À ce moment-là, la parole divine, la volonté divine, c'est qu'Hachem parle seul, que Moshe parle seul. Comme ce sera le cas à partir de la sortie d'Égypte. À ce moment-là, c'est Moshe qui parle tout seul. Faut bien Israël. Aval gambezé s'y rêve Moshe. Mais là aussi Moshe n'était pas d'accord. Ve nishtana, asher yivuar, parak yudbet, pasuk yudbet, pasuk lamed. Là aussi, Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas. Il n'était pas d'accord. C'est intéressant, il n'est pas d'accord avec le plan divin. Et la preuve qu'il n'est pas d'accord, regardez le tournez un peu de page, allez au Passouk Yudbet, Passouk 12. Et d'abord, Moshe, l'Ifne Hashem, les morts, Hen, Bnei Israël, le Shamu Elai. Les Bnei Israël n'ont pas écouté. Après, il dit, Er, Ishmaël, Iparo. Et donc, on voit très bien que Moshe Rabbeinu a bien essayé de parler, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas écouté. Quand chaque fois que Hachem dit Ani Hachem, ici ça veut dire je suis la force de toutes les forces dans le monde. Ça veut dire c'est moi qui fais tout exister. Alors il dit Votseti Etchem, je vais vous faire sortir de Itachat Siblot Mitzrayim, des souffrances que vous ressentez, vous vivez en Égypte. Donc il y a quatre expressions, quatre verbes, sur lesquels les Chachamim se sont appuyés pour dire qu'on doit boire ces fameuses quatre coupes à Pessah. Voilà, dans l'Yerushalmi, c'est marqué, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a Arba Kosot, Yochanan Beshem Rabnaya, Keneged Arba Al-Gulot, les quatre expressions de libération dans notre verset. Même chose dans le Midrash Rabba. Arba Geulot Yeshkan, Keneged Arba Gzerot Shegazar Aleim Paro. Ça correspond à quatre décrets anti-juifs de Paro. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont instauré ces Arba Kosot le soir de Pessah. Alors, ça vaut peut-être la peine de regarder un peu d'explication de ces Arba Loshonot. En fait, il y a une question d'un des grands décisionnaires qui s'appelle le Mordechai. Le Mordechai, dans Arba Pesachim, il pose la question, ok, il y a quatre. Mais pourquoi les Chachamim, ils ont décidé que c'était quatre coupes? Pourquoi ils n'ont pas dit quatre pains? Quatre matzot. Des quatre morceaux de viande. Bon, faites une brochette avec quatre morceaux de viande. À chaque fois un morceau de viande. Alors, dans la Gemara, dans Arba Pesachim, c'est écrit Tanou Rabbanan, Kos Chamishi Omer Alav Alel Agadol. Le cinquième Kos, on dit, sur ce vers-là, on dit Hallel, le Hallel complet. Hallel Agadol. Hallel Agadol, c'est les qui le Olam Chasdo, on dit. C'est quoi? C'est pas le Hallel. On dit le Hallel et aussi Hallel Agadol. En vérité, nous, on a une autre version. On a une version que c'est sur le quatrième qu'on dit ça. Mais le Rif et le Rambam, ils ont la même version que le Netziv ici, c'est le cinquième, dans l'Yerushalmi. Et le Shulchan Aruch, il dit, il y a une mitzvah de faire un cinquième kos, puisque il y a des versions dans lesquelles c'est un cinquième. Veino leikuva, mais c'est pas me'akev, ça veut dire, c'est pas nécessaire, c'est pas impératif. Vous pelez, imonefchar. Otsarich liotrova, o loyavoklal. Comme dit Netzi, on comprend pas. Ou il faut l'amener, ou on l'amène pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien, mais c'est pas fondamental. Il explique comme ça. Quand on y réfléchit, un peu simplement, on se dit qu'en vérité, on ne peut même pas se représenter que ces gens-là, qui étaient des avadim, qui étaient les esclaves, qui travaillaient les briques ou la terre, qu'en si peu de temps, ils deviennent le peuple juif. Avec toutes ces exigences et l'acceptation de la Torah, etc. Chez Raoul, qu'il soit apte à se tenir au Sinaï, le Kabel Torah, avec le Gilou Shrina, le dévoilement de la présence divine. Donc on est obligé de dire que il faut comprendre que progressivement, le dat et le et la, la, la enfin le tselem elokim dans l'homme, ça vient très progressivement. Et c'était comme ça aussi pour le clan Israël. Shayu megushamim betzura ou bedat, leur forme et leur intellect et leur esprit étaient grossiers. Venit'alu bemeshech muat ad shegiu la'ar Sinai. Et néanmoins, ils ont réussi progressivement à arriver au Sinaï. Et c'est ça le Shonot Shel Geoula, les quatre expressions de la Geoula. Au début, c'est marqué « Ve'otzeti etchem mitachat sivlot Mitzrayim ». Je vous retirerai des souffrances, « Sevel », c'est la souffrance que les Égyptiens vous imposent. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, vous n'aurez plus à vous occuper de terre, de briques, etc. Jusqu'à la Maka de Harov, des bêtes sauvages, à partir de ce moment-là, ils ne travaillent plus. Mais jusqu'à Barad, jusqu'à la grêle, ils sont encore réputés esclaves. À ce moment-là, à partir de Barad, de la grêle, Paro commence à reconnaître Israël. Vous avez marqué, Vitzalti etrem avodatam. Je vous sauverai d'être la condition d'être à leur service, en fait. Donc là, ils ont grandi encore un peu, Tselem et Dat. Mais maintenant, ils sont toujours, en fait, sujets de l'Empire égyptien. La loi impériale s'impose à eux. Et dans la Avakat Bechorot, ils arrivent au niveau où ils sont Bnei Chorin, ils sont libres. Pour cette raison, c'est marqué Vegaalti, je vous libérerai. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu les a encore élevés, Velakarti etrem li l'am. Je vous prendrai pour moi comme mon peuple. Ça, c'est un Matan Torah. À ce moment-là, il y a cette alliance entre Akadosh Baruch Hu, l'alliance avec le Kabbalat Torah, entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël. Et donc, en souvenir de cela, les Chachamim ont fixé les fameux Arba Kosot, les quatre coupes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que le vin qui puisse faire changer l'homme. Non, il ne va pas changer en mangeant quatre morceaux de pain ou quatre morceaux de viande. Mais avec des coupes de vin, ben, il va changer. Il va au moins le réjouir, disons. Comme ça, on peut comprendre pourquoi, effectivement, il fallait même, on va voir, on va y revenir, éventuellement un cinquième verre. Hachem leur a dit, regardez le verset, il leur a dit, « Itzalti etrem avodatam, gaalti etrem izroa netuya, uvishfatim gdolim. » Je vous libérerai, ici, avec un bras étendu et avec de grands jugements, comme ils ont traduit ici. Ici, c'est marqué Zroa Netuya, un bras étendu. Des fois, c'est marqué Beyad Chazaka, une main forte. Et après, c'est marqué Beyad Chazaka ou Vizroa Netuya. Avec une main forte et un bras étendu. Ici, c'est marqué Zayan Tuya tout seul. Alors, évidemment, on doit rendre compte de ces différences. Mais auparavant, il ramène une Mechilta, Parshat Beshalach, sur le passouk qui dit Vayosha Hashem Bayom Ahu et Israël Yad Mitzrayim, Ce jour-là, Hachem a délivré le Bné Israël de la main des Égyptiens. Que Adam Shehu Ochez et Atzipor, comme quelqu'un qui attrape l'oiseau, Sheim Ratsa Miyadu Honka, voilà, il est dans la main. S'il ferme la main, il tue l'oiseau. Ou que Adam Shehu Shomet et a Ubar Mime Ampara, ou alors comme quelqu'un qui extrait il extrait le veau du ventre de sa mère. C'est marqué O Anissa Elokim lavo lakachat lo ger mikerev goy mikerev goy. Est-ce qu'on a déjà vu un Dieu venir prendre un peuple du sein même d'un autre peuple, en fait? L'expression c'est Milvad Chosek Malchut Mitzrayim Beotozman. En plus de la puissance de l'empire égyptien à ce moment-là, Ayaod Shnedvarim le Mivga, le Tachlit Ayetzia. Il y avait encore deux obstacles, en fait, à surmonter pour pouvoir libérer. Echad Shayu Kol Israël Bemakom Echad. Imken Kshera Paro Yal Hashem, Ki Chazaka Hi Alav. Aya Efshar Lechalot Et Israël Bepamachat. Les Bnei Israël étaient complètement rassemblés. Bon, ils avaient rassemblé tous les Bnei Israël dans les camps, si vous voulez. Alors quand Paro a vu la puissance de la main d'Hachem, il aurait pu exterminer les Juifs en un seul coup. Ils étaient tous rassemblés. On les tue tous. Et Chazal l'ont dit dans Masechet Psachim, pourquoi c'est marqué Tzidkot Pirzuno, pardon, B'Israël, c'est-à-dire Tzdaka, c'est un chef, c'est une tzedaka qu'Hachem a fait pour les Bnei Israël de les avoir dispersés parmi les peuples. Puisque comme ça, hein, toujours cette idée que Chazal dise, si le clan d'Israël il est très ennuyeux en un certain endroit, il y a un autre endroit où il ne l'est pas. אבל לא כן היה במצרים שהיו הכל במקום אחד. והיינו משל הציפור ביד אדם. C'est pour ça on prend cette image de l'oiseau dans la main de l'homme. Il suffit. Paro, il avait qu'à fermer la main, il aurait tué tous les Bnei Israël. שאם יבוא חברו החזק ממנו, ויכהו פעם ושתיים, שיניחנו בידו, מה הוא עושה? כשרואה שאין יכול לעמוד נגדו, הרי הוא חונקו להכיס את שכנגדו. S'il voit que quelqu'un est plus fort que lui et qu'il va devoir céder, ben pour embêter celui qui est plus fort que lui, eh ben il va étrangler l'oiseau. À ce moment-là, ça ne servira à rien qu'il ait été plus fort que lui puisqu'il ne pourra pas lui prendre l'oiseau. Ce chachash était là pour les Bnei Israël. Mais Akadosh Baruch Hu Itzilam, Akadosh Baruch Hu les a sauvés. Ou les Eloya Moïl Behemet Toket Hamakot. Ça, effectivement, même les makotes, même si elles étaient très fortes et tout, ça servait à rien, ça n'empêchait pas Paro de détruire les Bnei Israël. Et c'est pour ça que les makot, elles se suivaient pour que Paro n'ait pas le temps de réfléchir, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Maintenant, effectivement, Hachem va m'obliger à sortir, à libérer les Bnei Israël, mais si je les tue tous, il n'aura rien gagné. Mais Zroa Netouya, il aurait pu étendre son bras. Hachéyani, Achetat Sipor, Chaya. ואין לאוחז שהוא לחשוב, שהות לחשוב מה לעשות כי אם להניחה. Ça veut dire le bras étendu, c'était d'avoir frappé en permanence Paro pour qu'il n'ait pas le temps de réfléchir à comment est-ce que je pourrais faire pour empêcher Hachem de récupérer les Bnei Israël. Il ne pouvait pas arriver à... Il n'a pas eu le temps de réfléchir qu'il aurait pu les tuer en fait, puisqu'ils étaient tous rassemblés. C'est ce qu'Hachem a fait. Bécha, Shinachou, Minamakot, Lonachou, le Gamré. Lorsque entre deux makot c'est apaisé, mais c'est pas apaisé complètement. De telle sorte que Paro et ses conseillers n'ont pas eu le temps. Ils n'avaient jamais le temps parce qu'ils étaient occupés à souffrir sous les makot, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire contre la volonté divine. La maka, la dernière maka. Shimsha mita banashim pratiyim migdole paro vechachamav. Chacune des makot, même quand elle était en voie de disparition, elle tuait encore des princes. Comme la Gemara, comme le Midrash Rabba le dit, et ils ont apporté une preuve, hine anochi nogef. Voilà, Hachem dit, voilà, je frappe, en fait, je... Le kol ze aya bichne shelo yiyeh le paro v'yatzav shat nuya laskim le ze. Ze wa nikra bizroa netuya. Ça, c'est ce qu'on appelle zeroa netuya. C'est-à-dire, cette idée de le bras étendu. C'est ce que le rédacteur de la Haggadah a dit, Zou Acherev, c'est le glaive. Mita She'aita Ben Maka le Maka. La mort des princes, des conseillers, entre une Maka et la prochaine. Deuxièmement, Eno Moïl Chose Kamakot, Lotzi et Tameune, Miyad Me'anav, Ela Beofan. Chamounet soek la tset. Pashen ken, imen orotse, en vérité, pour libérer la victime, il faut que la victime veuille sortir. Or, les Bnei Israël ne se plaignaient pas. Il devait trouver un espèce de modus vivendi. C'est comme toujours comme, quand on a très mal, si on trouve une position où ça fait moins mal, on ne veut plus en bouger. Même pour aller se faire soigner, on n'a pas envie de bouger. Mais on sait bien qu'en Égypte, il y a pas mal de gens qui ne voulaient pas sortir. Parce que parmi les Bnei Israël, il y avait les gens qui étaient. Ici, des gens qui étaient riches, et des gens qui étaient des princes égyptiens parmi les juifs. On a un peu l'impression, c'est la situation de... l'inquisition espagnole. Les Bnei Israël étaient des princes, des ministres, etc., des gens très, très bien placés. Mais eux, donc une grande partie des gens se sont convertis. Même si en fait c'était pour la forme, mais beaucoup se sont convertis. Il y a aussi ceux qui n'avaient pas du tout envie d'accepter le service d'Hachem. Ils n'avaient rien à faire de la Torah. Au moment du dévers, quand beaucoup les a sortis, chez Aïta, à l'archaïm chez Israël, Beshat Makat Rocher. C'est-à-dire, au moment du Rocher, ils ont été frappés par la peste. Les Juifs qui ne voulaient pas sortir. C'est cette explication que Rashi donne, que Hamushim, les Bnei Israël sont sortis un cinquième, quatre cinquièmes n'ont pas voulu sortir. C'est cette idée de l'homme qui vient sortir le Ubar Mimé Apara, le veau du ventre de la vache. L'homme Moïl, Amakot Lapara, Kacher Ena Ubar Otselatset. Ça ne sert à rien de frapper la vache si le Ubar ne veut pas sortir. Nikol Makom, Otsia Kadosh Boku Baal Kocham. Néanmoins, Kadosh Boku les a fait sortir à leur corps défendant. Et c'est ça, Biyad Chazaka. Chez Mashmao Baal Kocham, Knoshon Anavi, Cheskel, Imlio Beyot Chazaka, Emlo Chalechem. Et là-dessus, le Maguide de la Haggadah, il dit, Zouadever, c'est la peste. Shayal Israël, la peste, c'est pas la peste qui a frappé les Égyptiens, c'est la peste qui a frappé les 4/5 pendant le Choshech. Bon, c'est pas comme ça qu'on lit la Haggadah d'habitude. Donc maintenant on comprend la suite. On comprend pourquoi des fois c'est Yad Chazaka, ou Yad Zroan Letouya avec Yad Chazaka, sans Yad Chazaka tout seul, etc. Yevchar Lomar Biyad Chazaka. Ici on ne peut pas dire Yad Chazaka. Sharia Prira Ita Biyadam Shirtsu Kulam Latset. Le choix était de proposer à tous de sortir. Ou même à comme acher, ktiv rak biyad chazaka, veivouar shama, le fi ainyan, j'ai expliqué au fur et à mesure.
Excusez-moi, c'est quand même curieux, parce que l'idée de les faire partir pendant le prochain, c'était justement pour que les choses elles passent sans.
Oui.
C'est-à-dire que les Égyptiens.
En fait, c'est.
Ils ne s'aperçoivent pas qu'en fin de compte, ouais. Les Juifs sont en train de faire parce qu'ils d'avoir avec les plaies. Et là, du coup, alors, s'ils mouraient de la peste.
Et pas de la peste au moment de la macabre de peste.
Oui, c'est ça, au moment du prochain. Mais c'est-à-dire quoi
voilà. C'est très difficile parce que s'ils sont morts de la peste, a priori, il y avait les cadavres.
Bah, c'est ça.
Et à part ça, c'est très difficile, même sans tout ça, c'est difficile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que les Égyptiens n'ont pas remarqué. Qu'il y avait 4/5 d'Ebné Israël qui étaient morts, qui n'étaient plus là.
On peut dire qu'ils n'étaient pas là, c'est pas ça.
D'accord,
ils s'occupaient d'eux, mais pas des autres.
Oui, mais 4/5, tu dis qu'il manquait un dixième, bon, c'est passé inaperçu. Mais que 4/5 soient absents, on ne peut pas, raisonnablement, on ne peut pas admettre qu'ils ne s'en soient pas aperçus.
Ils sont déjà partis, peut-être. Ils étaient dans d'autres sphères.
Difficile. Tout ça, ce sont les drachotes. Hein. C'est pas. Bien sûr. Je vous avais dit, j'ai une autre théorie, mais bon. Je vous ai raconté déjà, non? Il y a une. Tout ça, ça vient d'une autre question. On parle du Erev Rav. Ouais, il y a le Erev Rav qui est sorti. Alors, la première question que j'avais, c'était, on dit que le Erev Rav, c'est eux qui ont donné les idées pour savoir, et que c'est eux qui ont entraîné les Bnei Israël à faire le veau d'or. Bon, la vérité, je me suis demandé, comment se fait-il que ces gens-là, qui étaient certainement une minorité, comment c'est eux qui sont capables de dire à la grande majorité comment il faut faire? Pourquoi on ne leur a pas dit, écoutez-vous, vous êtes des Égyptiens, ne vous mêlez pas de cette question-là. Alors, je me suis donné pendant quelques années, une mauvaise réponse, mais enfin, il n'y en a pas d'autre, qu'ils se sont dit qu'on ne sait pas. Si on a une idée, alors on n'accepte pas les autres. Mais quand on n'a aucune idée, parce que personne ne savait comment on allait donner du kavod à ce veau d'or. Et eux, ils disent, mais nous, on sait. Alors ils se sont laissés entraîner. Peut-être qu'ils n'ont pas tout de suite dit que c'était Avodah Zarah, parce que c'est vrai que c'était pas Avodah Zarah au début. C'était une façon de lui dire c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte, etc. Donc on lui donnait un peu de kavod. Alors, c'était pas des prosternations. Au départ, c'était sûrement pas comme ça. Ok, donc j'avais une question. Mais après, je me suis dit, voilà, les gens, ils vont sortir. Comment ils sont sortis de Mitzrayim? Ils sont sortis, ils sont trouvés au bord de la mer. Hazal disent que les Bnei Israël, quand ils ont passé la mer, ils ont passé la mer chaque tribu dans son canal. Il y avait un canal pour chaque tribu. Et alors, et les Égyptiens, ils ont passé comment? Ils ont passé la mer. Comment ils ont fait pour se retrouver de l'autre côté? C'était les Égyptiens, il n'y avait pas de place. Mais alors, de toute manière, c'est les Bnei Israël qui ont passé. Comment ils ont fait pour passer, eux? Ils ont dit, on est juifs, on passe aussi. Bon, je ne sais pas, c'était pas clair. Et ensuite, ces gens du Erev Rav, quand les Bnei Israël, ils campent par tribu. Ils se sont installés, les Erev Rav. Dans quelle partie du clan Israël, dans quel camp ils étaient? Là-bas, même si vous dites, vous êtes des juifs, ok, mais il n'y a pas de place pour vous. Vous êtes de chez Rouven, non? Shimon, non? Il n'y a pas de place. Alors peut-être qu'ils se sont installés n'importe où et on ne leur a rien demandé tant qu'ils n'ont pas, quand ils n'ont pas réclamé, comme on voit le fils de truc, et lui, il a réclamé. Quand il a réclamé une place, on lui a dit, mais non, tu n'as pas de place. Tant que tu dis rien, on te laisse, mais si tu viens, tu réclames. Bon, je ne savais pas. Mais après, je suis tombé sur un chazal qui, lui, se pose la question de combien étaient, ils étaient combien, le Erev Rav. Alors, il y a trois opinions. Trois Tanaïm. Un qui dit qu'il était 1 200 000. Un autre qui dit qu'il est 2 400 000. Un troisième qui dit 3 600 000. Celui du milieu à 2 400 000, c'est Rabbi Akiva. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire 2 400 000? 2 400 000, c'est 4 fois 600 000. On les Bnei Israël qui sont sortis, ils étaient 1/5, c'était 600 000. 4 fois 600 000, c'est 4/5. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on appelle les Erev Rav, c'est les Bnei Israël qui étaient égyptiens. C'est pas très étonnant. C'est-à-dire, c'était les juifs, mais complètement acquis aux valeurs égyptiennes. Pourquoi ils ne voulaient pas sortir? Les autres, parce qu'ils étaient égyptiens. Mais ceux qui sont sortis, c'est aussi des égyptiens. C'était des égyptiens de confession pas encore mosaïque, mais ils allaient accepter la Torah. Enfin, ils étaient plus ou moins d'accord de suivre Hachem, et petit à petit ils vont accepter la Torah, et encore pas facilement. Ces gens là c'était le ils étaient le c'est ça le Erev Rav. Ce n'est pas les Égyptiens qui sont venus, pas de gens qui viennent au secours de la victoire. Mais c'est que, pourquoi ils sont sortis? Parce que Paro, à Makat Bechorot, Paro il a dit, sortez tous, je ne veux garder personne. Tant qu'il y a des Juifs, la Makat Bechorot elle continue. Donc il les a virés, même ceux qui ne voulaient pas sortir. Ils sont aussi sortis. Et eux, ils n'ont pas de problème, ils sont sortis avec leur tribu. Toutes les questions que j'ai posées, comment ils ont passé? Oui, camp, etc. Ben, ils campent, même s'ils n'étaient pas d'accord, mais ils appartiennent, c'est les gens de la tribu de Rouven, de Shimon, de Lévi, ils étaient en place. Et la première question que j'avais posée, comment ça se fait qu'ils ont suivi? Ben, c'est pas que le rêve en question, ils n'étaient pas minoritaires, ils étaient majoritaires. Ils étaient 4 fois plus nombreux que... De toute manière, c'est pas moi qui ai inventé qu'ils étaient 4 fois plus nombreux. D'accord? Que tu dises que c'est les Égyptiens, ou que tu dises que... Le problème, les Juifs étaient des Égyptiens à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient nés en Égypte, des passeports égyptiens, nés en Égypte. Et donc, ça enlève toutes ces questions-là. Évidemment, j'ai aucune source pour faire valoir ce que je raconte, mais bon, pour l'instant, je me suis assez content. Et donc, ça veut dire que dans le clan d'Israël, il y avait plein de gens qui n'étaient pas du tout vraiment d'accord et qui petit à petit ont été mis d'accord ou convaincus. convaincus, parce que quand ils ont vu qu'ils avaient tort de ne pas vouloir. Et c'est une chose de ne pas vouloir sortir vers, tu ne sais pas où on va, par un cinglé qui te raconte qu'on va aller, on va sortir dans le désert, etc. D'accord, pourquoi il va te faire confiance à Moshe, je veux dire. Est-ce qu'il leur propose un truc impossible? Tout le monde dès l'époque, c'était impossible de sortir d'Égypte. Alors bon, les gens qui ne voulaient pas sortir d'Égypte.
Ils n'étaient pas
Metsuyanim, quoi. Quoi? Il y a les Metsuyanim, et puis il y avait ceux qui ne l'étaient pas, qui auraient voulu rester en Égypte, mais que Paro a viré. Parce que, même en Allemagne, il y avait sûrement des Juifs qui seraient bien volontiers restés en Allemagne. Hein. Ils étaient plus Allemands que les Allemands. Pourquoi ils devaient partir? On les a virés, c'est tout. Ils sont partis. Ou on les a mis dans les camps, ou ils sont partis. Alors corps défendant, et d'ailleurs, dès qu'ils ont pu, ils sont revenus. Hein. Beaucoup d'entre eux.
Peut-être qu'ils sont morts spirituellement.
Oui, tout à fait.
Pendant les plaies.
Oui, d'ailleurs, pendant Rocher, ils étaient à Rocher, ils ont plus ou moins disparu au sens, on voyait ceux qui suivaient Moshe, et eux, ils ont disparu du clan d'Israël quelque part, ils se sont refondus dans la masse égyptienne, puisqu'ils étaient égyptiens, assimilés, ils voulaient continuer d'être assimilés. Seulement Paro les a virés. Parce que, ça fait partie de la Hashgara. Alors je vous ai fait en sorte que la Makat Bechorot, elle ne s'arrête pas si eux ne sortent pas. C'est pour ça que Paro, il dit, mais partez, que personne ne reste.
Et pourtant, il reproche Moshe Rabbeinu, il dit le peuple. Il y a une différence entre le peuple, ton peuple, et ton peuple. Enfin, je veux dire, pour faire l'évidence avec
lui. Là-bas, il dit c'est ton peuple qui a fauté, oui. C'est parce que c'est Moshe qui, finalement, lui, il voulait prendre ces gens-là. Peut-être, là, ça reste, cette idée que Hachem lui a dit ne prends pas. Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il voulait prendre tout le monde. Il voulait sauver tout le monde. Alors, corps défendant. Et Hachem lui a dit non, ne les prends pas. Et Moshe Rabbeinu, il voulait quand même les prendre. Mais en fait, c'est Moshe Rabbeinu qui a gagné parce que Paro, il a aidé Moshe, il a viré tout le monde.